Oui, nous pouvons dire merci au Seigneur pour tout, pour les gens qui ont composé ces cantiques. Béni soit Dieu pour les frères et les sœurs qui composent des cantiques profonds, qui nous permettent d'entretenir notre foi. C'est une grâce d'avoir des beaux cantiques. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans 2 Corinthiens au chapitre 5, du verset 6 au verset 10, au verset 6 et au verset 8. L'apôtre Paul répète une parole que nous avons besoin d'entendre pour que nous vivions les mêmes choses. Le titre de ma prédication ce soir est ce qu'on va lire dans ces deux versets, plein de confiance, une pleine confiance. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Il a traversé beaucoup d'épreuves, et voilà ce qu'il dit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Nous sommes pleins de confiance. Voilà le témoignage de l'apôtre Paul qui doit également nous interpeller car nous sommes sujets à des épreuves, du découragement. Est-ce que ça peut arriver de perdre courage? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça peut arriver. Tout à l'heure, ce matin, je lisais le livre de Job, quand on voit comment Job a perdu courage et que ça venait de Dieu. C'est des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous comprenons maintenant, il y a des choses que nous comprendrons plus tard. Jésus a dit à Pierre, ce que tu comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Il y a plein de choses qui nous dépassent, il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que nous n'écoutons pas. Dans la parabole du semeur, il est dit, il écoute la parole et il ne la comprend pas. Il y a un autre cas, il est dit, il écoute la parole et il la comprend. Nous voyons qu'il y a quand même toute une écoute. Combien de fois il dit, mais écoutez et comprenez. Combien de fois le Seigneur a dit, mais vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. En tous les cas, une chose est sûre. Où que nous soyons ce soir, dans quel état que nous soyons, même si nous avions été éprouvés par Dieu. D'ailleurs, on va quand même le lire parce que je l'ai à cœur. C'est le Job 22, c'est quand même des choses qui nous dépassent. Vraiment, il y a des choses qui nous dépassent. Dans le combat spirituel, dans l'invisible, on a chanté des ennemis, dans l'ombre, rôde autour de moi. Ça fait allusion à tous ces combats qui se produit dans l'invisible, et c'est vrai que ce matin, je ne sais pas pourquoi, je voulais lire un texte qui se trouvait dans Job 22, et souvent quand je lis, je lis en entier le chapitre, et je disais, mais c'est quand même, c'est particulier cette affaire. Regardez, dans Job 22, on voit bien que ça vient du Seigneur, à cause d'une épreuve qu'il a permise. Regardez, Job 22, c'est quand même fort cette affaire. Vous voyez, Job 23, verset 16, Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 17. Ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent. C'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Dieu a vraiment permis une épreuve et lui a enlevé le courage. C'est des choses qui nous dépassent. Et pourtant, Paul dira dans tout ce qu'il traverse et tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il doit traverser encore, nous sommes plein de confiance. Alors, la volonté de Dieu, c'est quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est important de connaître la volonté de Dieu? Je suis persuadé qu'on patine un peu avec la volonté du Seigneur. Quand un chrétien prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, pour certains, comme disait d'ailleurs Antoine lorsqu'il présentait les chants, c'est pas toujours la même chose pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que ta volonté soit faite? Qu'est-ce que ça veut dire, je veux marcher dans les projets de Dieu? Qu'y a-t-il sur ton cœur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, etc., etc. La volonté de Dieu. Donc, il y a des choses que nous ne savons pas. De toute façon, il y a des promesses que nous ne savons pas. Est-ce que vous connaissez toutes les promesses que Dieu a pour vous? Même si vous avez lu la Bible plusieurs fois, ne nous méprenons pas. Il y a des promesses que Dieu validera, et pourtant on ne les connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est évident. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Un jeune voudrait par exemple se marier. Est-ce que le mariage, c'est quelque chose, le mariage? Pour quelqu'un qui n'est pas marié. Je me mets à la place d'un jeune qui n'est pas marié. Je suis très sérieux. Mais est-ce que là, ça peut être la volonté de Dieu, que je me marie que dans 2 ans ou dans 3 ans? Bien sûr. Vous voyez? Par rapport au travail, par rapport à plein de situations. Alors, quelqu'un qui peut dire, avec ce qu'il a traversé, comme l'apôtre Paul, n'oublions pas qu'il faut l'imiter, il a pu dire, mais imitez-moi. Nous sommes pleins de confiance. Alors, il y a des textes, et je voudrais que nous en lisions 2, pour vraiment entretenir un état d'esprit. Parce qu'en fin de compte, il y a un état d'esprit. Il y a des choix que nous faisons. Dans 1 Thessaloniciens, il y a des choses que nous devons nous imposer. C'est David qui dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. On voit qu'il contrôle son âme. Et quand le Seigneur nous dit au travers d'un homme comme l'apôtre Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, ce sont des paroles qu'on peut ne pas comprendre. Mais on va voir à la fin, on a introduit le jeûne et prière tout à l'heure par une parole d'Ésaïe, qui résumera bien tout ce qu'on va partager maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, c'est un commandement, moi j'appelle les commandements des invitations, parce que vraiment je sais que chaque commandement est une bénédiction. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Il y a écrit prier sans cesse. Alors est-ce qu'on peut prier 24 heures sur 24? Comment? Est-ce qu'on peut rester à genoux 24 heures sur 24? Mais prier sans cesse, ça veut dire qu'on n'arrêtera pas de prier. Je prierai toute ma vie pour mes enfants. C'est ça que ça veut dire. Pour qu'ils se convertissent, s'ils ne le sont pas. Prier sans cesse, ça veut dire que je ne me relâcherai pas. Bien sûr qu'il y a un temps pour tout, pour dormir, un temps pour se détendre, etc. Prier sans cesse, ça veut dire qu'on ne s'arrêtera pas parce qu'on a confiance en Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Déjà, il serait quand même souhaitable que nous sachions ce qui peut, ce qui doit, ce qui va nous maintenir dans la volonté de Dieu. Si le Seigneur nous dit rendez grâce en toutes choses, il sait très bien que ça développe à nous un bon état d'esprit. Comment Paul, lisez de Corinthiens, vous allez voir tout ce qu'il a traversé, et lui, qu'est-ce qu'il dit 2 fois de suite, comme on vient de le lire, nous sommes pleins de confiance. Éphésiens, juste avant, enfin 2 ou 3 livres avant, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le cadre de la vie de l'Esprit, où nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est important pour vous d'être remplis du Saint-Esprit? Quand on est plein de confiance, je pense qu'on doit être plein du Saint-Esprit. Alors, pour être plein du Saint-Esprit, Éphésiens 5, verset 20, c'est important, mes frères et sœurs. Nous, on voudrait des fois de nouvelles révélations. On aimerait que Dieu nous enseigne quelque chose de nouveau. Est-ce que des fois, vous aimeriez pas apprendre de nouvelles choses? Et des fois, c'est vrai que des fois, on dit, oh, j'aimerais de nouvelles révélations. Mais bien souvent, le Seigneur doit nous rappeler des choses qu'on a déjà entendues parce qu'on ne les vit pas. Éphésiens, chapitre 5, verset 20, rendez, alors comment c'est écrit dans votre Bible? Rendez, le dimanche matin, comment ça? Non. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres, car ça, c'est vraiment révélateur, cette intersoumission, lorsque nous vivons ensemble dans un foyer, dans une église, etc. Le Seigneur pose des questions dans la Bible qui nous permettent de réfléchir. Quand il dit à ce malade qui est malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Heureusement que c'est Jésus qui pose la question, parce qu'on pourrait dire, mais ça frise la moquerie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est Jésus qui la pose, c'était plein d'intelligence. Veux-tu être guéri dans ce temps difficile dans lequel nous sommes? un temps qui favorise l'endurcissement, un temps qui favorise l'apostasie, un temps qui favorise l'iniquité, un temps qui favorise la dureté, les hommes seront méchants, vous connaissez ces textes. Est-ce qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont vécu dans les mêmes conditions que nous? Est-ce qu'il en sera de même que du temps de Noé? Noé, il a vécu dans les mêmes conditions que nous. Il n'y avait peut-être pas autant d'électronique, d'accord? Mais moralement, il y avait la même perversité. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que Noé est entré dans l'arche. Noé est entré dans l'arche. Ça doit nous faire réfléchir, parce que la confiance ne peut exister que si nous sommes à l'abri. À l'abri du jugement. N'importe qui, même les païens. Une fois, je faisais la queue dans une petite épicerie. Vous savez comment c'est, on était 5 ou 6, d'accord, on attendait pour payer ma bouteille d'huile, je ne sais rien d'ailleurs. Et les gens parlaient. Ils se connaissaient. Ça va mal, ça va aller mal. Il y a quelque chose qui va aller mal. Il y a quelque chose de grave qui va se... Les gens dans le monde, ils perçoivent quelque part que les choses vont aller mal. Et dans ce chaos présent, réel, s'il y a une chose qui peut permettre de pouvoir dire, moi je suis plein de confiance, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, évidemment, c'est d'être à l'abri. Et quand le moment est venu, Noé est entré dans l'arche. Il savait que la colère allait venir, mais il était à l'abri. Et ce soir, de la même manière que nos corps sont à l'abri de la pluie, s'il venait à pleuvoir en ce moment à l'extérieur, il faut que nos âmes soient à l'abri. C'est archi important. Parce que quelqu'un ne pourra jamais dire qu'il est plein de confiance s'il se sent pas à l'abri. C'est comme dimanche matin, on a vu que personne ne peut pardonner s'il n'a pas confiance à Dieu. Quand vous avez confiance à Dieu, vous ne pouvez que pardonner. Les gens qui ne pardonnent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de rétrogrades. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Il y a une façon intellectuelle, il y a une façon religieuse, il y a une façon superstitieuse, etc. Quand Dieu révèle quelque chose dans la Bible, quand Dieu révèle un commandement, une promesse, une prophétie, c'est pour que nous soyons saisis par ces choses et que nous soyons rassurés. Est-ce que vous réalisez, par exemple, que David, le roi David, n'avait que les 5 premiers livres de la Bible? Nous, on a l'impression qu'ils avaient tout. Mais David, dans l'Ancien Testament, il n'avait que, et encore à partir de après Moïse, bien sûr, il n'avait que les 5 premiers livres de la Bible. Et David s'est vraiment approprié les promesses de Dieu. Et je voudrais, mes frères et sœurs, qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est écrit « Comprenez la volonté de Dieu » ? Qu'est-ce que vous comprenez de ces versets qu'on vient de lire ? Qu'est-ce que nous comprenons ? Je me mets avec vous. Qu'est-ce que nous comprenons de ce texte « Rendez continuellement grâce » ? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce avec Dieu. Attends, mais tu sais ce que je suis en train de traverser ? Eh bien oui. Rendez continuellement grâce. Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que c'est bien de tourner en rond. Mais bon, tourner en rond, ça va un moment. Vous êtes d'accord avec moi? Tourner en rond, bon, quelques jours, ça va. Redoubler une fois, ça va. Redoubler 3 fois la même classe, vous avouerez que ça commence à être pénible, non? Et spirituellement, il y a des gens qui ont redoublé des années. Et c'est un choix. Apprendre la volonté de Dieu. On est là ce soir d'ailleurs pour ça. J'ai soif de ta présence. Qu'est-ce que tu veux me rappeler ce soir? Eh bien, que j'ai le choix ou de rendre grâce ou de me plaindre. C'est un choix. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Et souvent, les choix que nous faisons sont beaucoup plus puissants que ceux que nous pouvons croire. Nous avons l'impression, oui, c'est pas grave. Mais passez toute une journée à vous plaindre, ou toute une semaine, et passez toute une semaine à rendre grâce et à glorifier Dieu. Vous rappelez le verset qu'on a pris dimanche matin ou tout à l'heure, je m'épuise à force de gémir, parce qu'il avait des conflits avec des amis. Mais ça vaudrait la peine de se dire, mais quelles sont les conséquences de cette affaire-là? Quand même, quand on lit la Bible, il y a quand même un moment donné, on se dit, tiens, plein de confiance, plein de grâce, plein de paix. On voit des gens qui sont remplis d'espérance, l'autre est rempli de récompense. Ça nous donne envie quand même d'être rempli. Je vous donnerai une pleine paix, une pleine joie. Le rempli du Saint-Esprit, ça signifie quand même des comportements. Quand Dieu dit « rendez grâce en toutes choses », mes frères, je pense que nous devrions quand même réfléchir. Oui, j'ai vécu ça. Il y a des gens, moi je le sais, je suis pasteur, on suit des gens. Il y a des gens, vous les voyez, mettons 20 ans après une épreuve, ils n'ont pas avancé d'un centimètre. Ils se plaignaient parce qu'ils ont été en conflit avec telle personne il y a 20 ans. Vous savez, c'est comme magnétophone, vous le reprendriez exactement au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'à la place de rendre grâce pour l'épreuve, eh bien, ils se sont plaints. Et je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui rend grâce, il obtient de la consolation. Dieu le bénit. Parce que vous lui faites confiance. Nous sommes pleins de confiance. J'ai traversé une épreuve avec un frère, avec une sœur, avec un enfant. Est-ce que ça peut arriver d'avoir une épreuve avec un de ses enfants ? Eh bien, Seigneur, je te rends grâce. En toute chose, je te rends grâce. Ça fait partie de ta volonté, donc ça doit être archi intelligent. Je te rends grâce. Je fais le choix d'obéir. Dieu ne vous obligera pas. Dieu ne vous obligera pas à rendre grâce. Il vous exhorte, il vous encourage, il vous fortifiera, il vous enseignera, mais Dieu ne forcera personne. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un ange demain matin qui vous secoue et que tu as entendu hier soir la prédication, tu as intérêt à t'y mettre. Un ange ne vous secourra pas pour vous faire votre culte personnel ou pour vous forcer à obéir. C'est accentué ces choses. Quand on lit « Rendez grâce en toutes choses », ça pourrait s'arrêter là. « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu » en Jésus. Est-ce que vous voulez vraiment être dans la volonté de Dieu ? Moi, je me pose des questions parfois par rapport à tous les chrétiens. On a chanté « Je veux bâtir en or, en argent ». Vous connaissez ces textes qui sont tirés de justement des écrits de l'apôtre Paul qui dit qu'on peut construire soit avec des matériaux nobles ou soit avec des matériaux mauvais qui passeront devant Dieu et qui ne produiront rien. Comment quelqu'un peut faire la volonté de Dieu s'il est tout le temps en train de se plaindre ? Et le diable, il le sait. Et le diable, il le sait. Vous savez, moi, je suis pas dans la diabolisation continuelle. Moi, je suis dans la responsabilisation. Mais quand même, le diable sait très bien que s'il peut amener quelqu'un à toujours râler, à se plaindre, à toujours rechigner, il sait très bien qu'il finira par ne rien trouver du tout. Parce que quelqu'un qui se plaint ne trouve rien. Et quelqu'un qui rend grâce obtient les choses de Dieu. C'est facile à comprendre. Dieu contrôle tout. Est-ce que vous le croyez que Dieu contrôle tout ? Il a même dit, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu maîtrise tous les détails de notre vie. Moi j'aime beaucoup, parce que j'ai pleuré je ne sais pas combien de fois en lisant cette histoire, c'est l'histoire de Joseph, vous savez le patriarche. Franchement, ce jeune homme, il n'avait que 17 ans. 17 ans, c'est pas vieux quand même. Vous êtes d'accord ? Il avait 17 ans. Dieu se révèle, il fait deux songes qui laissent supposer que Dieu a un plan spécial pour lui. Bien sûr, lui, dans sa naïveté, il va les raconter à ses frères. Les frangins, eux, ils n'ont pas bien pris la chose. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ils vont être remplis de jalousie. Cette jalousie va s'intensifier à tel point que ça va se transformer en haine et cette haine va se transformer en envie de meurtre. Ce sont quand même les frères de Joseph, les ancêtres de Jésus-Christ, puisque dans les 12 frangins, il y a Judas qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et voilà que ses frères vont vouloir le tuer et ils vont le jeter dans une citerne, lui casser la figure, etc. Le vendre, il va partir comme esclave. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez, sincèrement, où on devrait vous dire, voilà, qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire ? Résumez-moi cette histoire. Qu'est-ce que vous voyez ? La jalousie, la haine, le péché, la méchanceté, le péché. Oui ou non ? Et pourtant, lorsque Joseph, à cause de cet état d'esprit qu'il avait choisi à 17 ans, hein, puisque quand il est éprouvé, vous le voyez tout le temps en train de bien réagir, en prison ou pas, il est tout le temps là, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. C'est pas rendre grâce à Dieu ça ? C'est pas rendre grâce à Dieu en prison parce qu'on a été droit, en prison parce qu'on a été intègre, dire aux gens, mais c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Ça veut dire, je rends grâce en toutes choses. Tous ceux qui provenaient humainement du péché, de la jalousie, de la méchanceté, Il dit, mais non, c'est pas vous qui avez médité ça. C'est Dieu qui a changé le mal en bien. Pourquoi Dieu a choisi Joseph? Pourquoi Dieu a choisi un jeune homme qui a vécu quand même 13 ans dans des situations difficiles? Eh bien, parce que il resterait dans la volonté de Dieu, dans l'épreuve, et il a rendu grâce. Et quand Dieu dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu », nous devrions nous l'appliquer d'une manière définitive et commencer nos journées. Je ne sais pas comment vous commencez vos journées. Comment vous les commencez? Comment vous les commencez vos journées? Je serais curieux de savoir comment vous les commencez. En râlant parce que le réveil, vous changez de réveil tous les matins, le réveil, il traverse la chambre. Comment vous commencez vos journées en disant « Mon âme bénit l'Éternel, oh, j'en ai marre, il va falloir que je rencontre un codran, M. Catéco, je dois voir M. Catéco aujourd'hui. Ah, pardon, vous êtes là. Comment commencez-vous vos journées en rendant grâce, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Dieu le voit. Dieu voit tout. Et quand on voit ces choses, quelqu'un, je reviens au début, nous sommes pleins de confiance. Comment ça se fait? Ça vient de là. C'est lui qui est en prison. Il est en prison. Quand il écrit l'épître aux Philippiens, il est en prison. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Rendez grâce tout le temps. Ah bon, il faut... Qu'est-ce que vous feriez vous si demain vous mettez en prison parce que vous avez été droit? Qu'est-ce que vous diriez si demain vous mettez en prison parce que vous avez été honnête? Sans possibilité de sortir et de faire appel surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Bon. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a fait. A dit Joseph. Si nous ne rendons pas grâce, le Seigneur, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Corps, âme et esprit. Si nous ne rendons pas grâce, nous deviendrons ingrats. Vous savez que c'est un des signes de la fin des temps. On va le lire ce texte parce que c'est quand même, ça fait flipper, mais c'est bien que ce soit écrit. Dans 2 Timothée, il nous est décrit comment seront les chrétiens avant l'enlèvement. Pas tous, parce qu'il y aura des vainqueurs. Il y aura plein de vainqueurs, puisqu'il y a celui qui vaincra. Donc, je ne dis pas que tous les chrétiens seront dans cet état, mais enfin, il est quand même dit qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre. Donc, ça fait quand même mal au cœur. Il n'est pas dit l'amour de la moitié, l'amour du plus grand nombre. Donc, c'est clair, c'est une prophétie. Beaucoup, beaucoup de chrétiens se feront piéger par cette morosité, parce que le monde est en vrac, le monde est malheureux, et les chrétiens tomberont dans ces temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, difficile, ça ne veut pas dire impossible. Il ne faut pas non plus, faut pas dramatiser. Il faut faire attention à ne pas prendre un texte et l'aggraver. C'est difficile. Il y aura des temps difficiles. Donc, vous voyez, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Rien que ce mot qui colle à fond avec la prédication de ce soir. Ingrats. Les hommes seront ingrats. Vous voyez? Mes frères et sœurs, nous devrions peut-être dire, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire ingrat? Mais quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui dit jamais merci. Jamais merci. C'est beau la gratitude quand on s'est remercié. Merci Seigneur, merci. Merci. Je l'ai vécu, ça je me rappelle au début, quand je suis arrivé, bien sûr, à la rétrogradée, il y avait une sœur, tous les dimanches. Alors il y avait par exemple 50 personnes qui sortaient, merci Monsieur Gau pour la prédication, merci Monsieur Gau pour la prédication. Et elle, mais tous les dimanches, ça durait un an ou deux, tous les dimanches, Monsieur Gau, vous devriez apprendre à régler cette chauffage. Monsieur Gau, il faisait trop chaud, Monsieur Gau, il faisait trop froid. Monsieur Gau, la ventilation, c'est pas bien réglé dans l'église. Je dis, écoutez, on s'arrangera, on fera de notre mieux. Tous les dimanches, elle sortait, elle se plaignait. Je dis, vous savez, il y a des églises, il n'y a pas la climatisation. Mais ça fait rien, vous devriez mieux la régler. Il fait trop froid. Moi, j'ai eu froid ce matin. Et le reste, dit merci, merci. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ils avaient vécu la même chose, mais la personne avait décidé d'être ingrate. Le résultat, je vous assure, ça n'a pas été terrible. Il faut faire attention, c'est écrit, le peuple, nombre 11, verset 1, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Pourtant, murmurer, vous allez dire, attends, on ne va pas me faire, excuse-moi l'expression, mais un flanc pour ça. Eh oui, mais le murmure, même à des moments, ça va plus loin. Le peuple murmura et la colère de l'Éternel s'enflamma. sincèrement, je ne veux pas critiquer la parole, mais on pourrait dire, comment ça? Juste le gars il murmure et Dieu s'enflamme de colère, c'est pas proportionné, c'est disproportionné. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça veut, c'est révélateur. Moi, quand je vois ça, moi, quand je voyais la colère de l'Éternel s'enflamma, pour ça, je dis quand même. Bon, c'était au début de ma conversion, mais j'ai compris que quand la colère de l'Éternel s'enflamme, en principe, dans la suite, ça veut dire que la volonté de Dieu ne peut plus se faire. Et ce qui à nous paraît mineur, dérisoire, en vérité, quand la colère de Dieu s'enflamme, c'est-à-dire que la volonté de Dieu ne peut plus se faire. Alors nous devrions dire, mais Seigneur, moi je ne veux pas murmurer. Je veux au contraire rendre grâce. Et Dieu l'a permis qu'ils arrivent dans tel endroit. Paf, l'eau était amère. Tu permets encore que je traverse une situation d'amertume. L'amertume, vous avez déjà connu l'amertume? Intérieurement. Bon, quelque chose d'amer, bon, c'est vite fait. On le rejette, on boit un verre d'eau, c'est fini. Mais l'amertume spirituelle, qui a déjà connu ça? Que moi? D'avoir de l'amertume contre un frère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai béni Dieu pour ça. Ça a duré que 3 mois, 6 mois. C'est long. Le peuple murmura. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de vous faire traverser, mais mes frères et sœurs, ça serait super chouette si on sortait en disant « Je ne comprends pas tout. » Il y a des choses que je ne comprends pas, c'est parce que je ne suis pas assez attentif, ce n'est pas bien. Il y a des choses que je ne comprends pas parce que je n'ai pas encore la maturité pour les comprendre, ce n'est pas grave. Mais je suis plein de confiance. Je ne peux pas ne pas te faire confiance. Je ne murmurerai pas. Vous avez remarqué le nombre de fois où la Bible nous exhorte à louer Dieu. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Rendez grâce. Regardez la fin des psaumes, les 5 derniers psaumes, c'est presque hallucinant. Le nombre de fois il nous est dit, louer l'Éternel. Ce n'est pas une méthode. C'est pas... Bien sûr, vous allez dire, allez, j'ai compris, c'est bon, je vais louer Dieu. Non, ce n'est pas une méthode. C'est un état d'esprit. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Si tu permets une situation difficile, dans cet état d'esprit de louange, d'action de grâce, de reconnaissance, ce que tu permets dans ce cas, dans cet état d'esprit va devenir sa volonté. Et c'est pour ça que vous voyez dans la Bible des situations compliquées, et puis comme pour Joseph, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que dans la louange, dans les actions de grâce, dans la reconnaissance, ce que Dieu permet, Dieu va le transformer dans sa volonté. Ça vaut vraiment la peine. J'aimerais qu'on lise quand même quelque chose. Je l'avais marqué dans mes notes. Oui, c'est dans Ésaïe 57. Dans Ésaïe 57, on a une bonne explication. Ésaïe 57. Par rapport à cette affaire, c'est bien parce qu'en 2 versets, vous avez le fait que Dieu exprime sa désapprobation par rapport à cette affaire de plainte. Mais après, il y a la bénédiction. Regardez bien. Ésaïe 57, versets 17 et 18. Regardez bien les 2 enseignements qui sont dans ces 2 versets. C'est très, très, très important de comprendre les 2 situations. Regardez bien. « À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. » Bon, Dieu s'est irrité parce que la personne ne s'est pas bien comportée. Mais regardez la suite. « J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. » Donc on part d'une situation difficile, il y a de l'irritation, il y a un problème. Et puis Dieu dit, voilà, ben je vais te guérir. C'est ce qui peut se passer ce soir. Il dit, oula, je suis dans un mauvais état d'esprit, je suis tout le temps en train de gémir, de murmurer, de râler, de ne penser qu'à moi, c'est la chair qui a pris le dessus. Non, je vais, Seigneur, je vais te remercier. Les sacrifices d'action de grâce, regardez, on est dans Ésaïe, regardez avant dans les psaumes. C'est quelque chose que Dieu aime par-dessus tout. Parce que c'est révélateur. Regardez dans le psaume 69, ça va très très loin cette affaire d'action de grâce. Si vous saviez comment Dieu regarde au cœur, vous le savez que Dieu regarde au cœur. Regardez dans le psaume 69, c'est 69, oui, le verset 31, regardez bien. Pourtant, c'est un psaume qui indique beaucoup de souffrances. Vraiment, il y a beaucoup de... Lisez ce psaume, d'ailleurs c'est un psaume de lamentation, en vérité, dans les titres. Dans le psaume 69, c'est un, bon, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup. Vous le relirez, vous verrez. Mais regardez, au verset 31, il y a la réaction. C'est pour ça que David, c'était quand même un homme de Dieu. Il y a, vous allez voir toute la souffrance qu'il y a, mais à un moment donné, regardez. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Vous voyez, il prend la décision, il dit, bon, c'est clair. Regardez, regardez, enfin, on va pas lire tout. Mais il est vraiment, vraiment dans la détresse. Regardez au verset 18, ne me cache pas ta face à ton serviteur puisque je suis dans la détresse. Mais là, au verset 31, stop. C'est ça. Stop, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Regardez le verset 32. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. La louange est plus agréable à Dieu qu'un gros sacrifice. C'est bien de faire un gros sacrifice de temps en temps. Est-ce que c'est bien de faire un gros sacrifice de temps en temps? Bien sûr, on peut faire un don au Seigneur, quelque chose qui nous a beaucoup coûté. Un taureau, c'est un gros sacrifice. Dieu dit que la louange, c'est préférable à un gros sacrifice. Et l'épreuve se termine là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. C'est écrit dans Hébreux au chapitre 13. Et c'est un problème qui est récurrent. Vous vous rappelez quand Jésus a guéri les 10 lépreux? Il a guéri les 2 lépreux, puis il n'y en a qu'un qui est revenu, un étranger, un samaritain. Et Jésus dit, mais il y en a, il s'en est trouvé qu'un qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Et je ne sais pas comment ça marche, moi je suis pas, on n'est pas dans les statistiques, mais sur 10 personnes qui ont été bénies, sur 10 personnes qui ont été guéries, combien sont dans cet esprit de rendre gloire à Dieu? Et je termine avec ce texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 61, parce que c'est quand même, ça prouve qu'il y a un acte de foi à faire. On avait commencé le jeûne et prière avec cette notion. Regardez bien, dans Ésaïe 61, le Seigneur Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, est indiqué dans ce texte comme ce Seigneur qui donne. Mais comme je l'ai dit pour introduire tout à l'heure, quand Dieu donne quelque chose, il faut le prendre. Je disais, si vous passez devant un magasin de robes, mesdames, de belles robes de haute couture, et qui a écrit devant le magasin, donne robe de haute couture, ou donne costume. Vous n'obtiendrez ces robes que si vous entrez dans le magasin et que si vous les demandez. Elles ne vont pas venir toutes seules dans la rue. Et quand Dieu donne quelque chose, mes frères et sœurs, il faut le prendre. La foi, c'est prendre. Si on vous donne, je ne sais pas moi, une boisson, il faut la prendre pour vous désaltérer. Et dans Ésaïe 61, quand il est dit que l'Esprit du Seigneur et sur Jésus-Christ, pour porter, pour guérir, pour proclamer, pour publier, etc., pour consoler, au verset 3, vraiment, mes frères et sœurs, j'y reviens, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Si Dieu, ce soir, c'est sûr, mais vous pouvez en être certains, Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Dieu ne peut pas faire de favoritisme. Dieu donne à tous ses enfants un esprit, un vêtement de louange. Mais il faut le prendre. Et par la foi, voilà, c'est 9h20, je vais faire un acte de foi ce soir. Je veux cet esprit de louange. Je n'ai pas envie d'un esprit abattu, de casser les pieds à tout le monde. Parce que vous le vouliez ou non, vous le savez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont tout le temps avec un esprit abattu. Et quand on est abattu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on abat les autres. Quand on n'a pas la paix, heureux ceux qui procurent la paix. Quelqu'un qui procure la paix, eh bien, c'est que, qu'est-ce qu'il y a? c'est qu'il l'a. Et quelqu'un qui est abattu, il est tout le temps en train de casser les pieds aux autres. Alors moi, je n'ai pas envie d'être abattu. Moi, j'ai envie de me revêtir d'un vêtement de louange. C'est gratuit, Dieu le donne, mais il me faut le prendre. Et ça, je le répète, tout ce que Dieu fait, ça se reçoit par la foi. Et la foi, c'est prendre. La foi, c'est obéir. Un vêtement de louange, eh bien, je vais m'appliquer. Il faut absolument que je délaisse ce vêtement de misère, ces vêtements de charnel qui font que je m'épuise à gémir. Je prends par la foi ce vêtement de louange. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Vous savez, je veux chanter, je veux accomplir les projets de Dieu. Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, ça va quand même être compliqué de faire les projets de Dieu. Si je veux faire les projets de Dieu, parce qu'il y a des cantiques merveilleux, on chante des cantiques extraordinaires, eh bien, je pense que pour faire les projets de Dieu, il faut être dans la volonté de Dieu. Si je ne rends pas grâce à Dieu, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et voilà, et je deviens une source de problèmes. Et moi, je préférerais qu'on soit tous des sources de bénédiction. Abraham, Dieu a dit à Abraham, parce qu'il avait obéi, tu seras une source de bénédiction. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour compris, pour que Dieu nous aide? Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je vais le faire. Je vais le faire. C'est Jérémie qui, dans sa prière, rappelait la grâce immense que Dieu nous a fait de nous donner le libre arbitre. Hein, c'est bien vous. Hein? Quel bonheur, je suis libre. Je vais partir dans 5 minutes, je vais rentrer à la maison. Je suis libre de rester dans ma morosité ou de me revêtir de ce vêtement de louange. On demande au Seigneur qu'il nous aide. Vous êtes d'accord? Hein? Notre Père, notre Dieu, tu as envoyé ta parole pour les guérir. C'est écrit. C'est sorti de ton cœur, tu envoies ta parole pour guérir les hommes. Et nous nous humilions devant toi pour toutes les fois où nous avons été vraiment idiots et stupides de ne pas prendre tout ce que tu avais à nous donner. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons prendre ce vêtement de louange. Nous voulons prendre le bouclier de la foi. Nous voulons prendre tout ce que tu nous donnes, Seigneur, afin d'être des sources de bénédiction. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, du fond du cœur, merci. Amen.